Donc on va reprendre le cours de l'exposé. Je repasse la parole à Pierre Merlet.
Alors, c'est bon. La révolution chinoise de 1949, qui avait porté au pouvoir le régime maoïste, s'était donné pour but de libérer la bourgeoisie chinoise de l'emprise des grandes puissances. Bien que le régime se dise communiste, comme tant d'autres pays luttant pour leur indépendance à l'époque, ses dirigeants ont toujours agi en nationalistes. La révolution leur a permis de disposer d'un appareil d'État fort et indépendant des États impérialistes, comme il en existait peu dans le monde, surtout de cette taille-là, permettant du même coup à la bourgeoisie chinoise de se développer. Sur la base d'une exploitation féroce de sa paysannerie, l'État chinois a construit des infrastructures qui lui ont permis de réintégrer le marché mondial dans des conditions favorables à partir des années 1970. La Chine a en partie ouvert ses portes aux capitaux étrangers et accepté de jouer le rôle d'atelier du monde. Elle s'est spécialisée d'abord dans le textile, puis dans la production de certaines matières premières et de pièces élaborées à partir de métaux, des aimants et des composants électroniques dont elle a approvisionné l'industrie mondiale. L'État chinois s'est mis au service de l'impérialisme, en lui offrant ce que la Chine avait en abondance, sa main-d'œuvre bon marché et de plus en plus éduquée. À partir des années 1990, le pays a connu des taux de croissance spectaculaires et investi dans des domaines plus rentables. Les télécoms, l'éolien et le photovoltaïque, les batteries électriques, l'automobile. La Chine produit désormais entièrement ses propres smartphones et ses voitures. Elle a fini par contrôler plus de 90% des aimants dans les secteurs industriels de pointe, mettant sur pied, comme l'a écrit un journaliste, une filière entièrement souveraine et intégrée qui englobe aussi bien les mines nauséabondes arpentées par les gueules noires que les usines ultramodernes peuplées d'ingénieurs surdiplômés. La bourgeoisie et la petite bourgeoisie chinoise se sont donc développées au point que le marché chinois, même si l'ensemble de la population n'y a toujours pas accès, représente un cinquième du PIB mondial. La Chine a même ses milliardaires, 495 d'après le dernier classement de Forbes. Tout cela grâce à son État. Un Xi Jinping peut se permettre d'envoyer tel ou tel dignitaire en résidence surveillée, alors qu'on n'imagine pas Macron en faire autant avec Bernard Arnault. Mais c'est à ce prix que, collectivement, la bourgeoisie chinoise s'est faite une place dans le système impérialiste. Cependant, même son marché intérieur ne lui suffit pas. D'autant moins que les salaires des travailleurs chinois ont augmenté et que d'autres pays deviennent plus compétitifs qu'elles. D'où ces exportations de capitaux à travers le monde que les impérialistes considèrent comme une agression à leur égard. Pourtant, la bourgeoisie chinoise est loin de se battre à armes égales avec ses concurrents. Au cours des années, elle a accumulé dans ses coffres d'énormes quantités de dollars et de bons du trésor américain, mais n'a pas assez de débouchés pour les investir. Ces exportations dépendent toujours largement des pays impérialistes qui dressent à présent des obstacles devant elle. Elle est en fait dans une position subordonnée au sein de l'économie mondiale, même si elle avance ses pions. D'ailleurs, l'ascension de la Chine, spectaculaire par le passé, a déjà ralenti. La crise du Covid l'a frappée de plein fouet et ses taux de croissance ont chuté. Depuis peu, elle est menacée d'un effondrement complet de son secteur immobilier à cause de la spéculation. En 2013, elle avait lancé avec triomphalisme ses nouvelles routes de la soie, mais 10 ans plus tard, le seul partenariat qu'elle était parvenue à conclure avec un pays européen, l'Italie, vient de faire long feu, l'Italie ne le renouvelant pas et préférant s'ancrer du côté des États-Unis et des autres membres de l'OTAN. En fait, entre les impérialistes et la Chine, la guerre est déjà déclarée, au moins sur le terrain économique. D'une façon ou d'une autre, il faut qu'elle plie. Et après la Russie, c'est son tour d'être désignée comme agressive, déloyale et parfois même impérialiste. Profitons-en pour dire aussi un mot de la Russie, justement, car les médias font souvent un parallèle entre les deux pays qui ont en commun d'avoir un État fort leur permettant de ne pas se plier aux volontés des impérialistes. La guerre entre la Russie et l'Occident couvait depuis longtemps déjà quand elle a éclaté pour de bon il y a 2 ans. Cependant, la Russie a une place à part dans l'économie mondiale du fait de son passé. L'Union soviétique était en effet devenue la 2e puissance économique mondiale derrière les États-Unis grâce à la révolution d'octobre et au dynamisme de l'économie planifiée. Mais tenue à l'écart du marché international pendant 70 ans et minée par des contradictions internes, elle a fini par atteindre ses limites et a implosé en 1991. En moins d'une décennie, on a vu alors surgir au grand jour en Russie une poignée d'oligarques, ces milliardaires, qui mettaient la main sur les richesses du pays, exfiltrant aussitôt leurs avoirs à l'étranger et singeant les grands bourgeois en achetant des clubs de foot, des yachts et des villas. Mais tout le pays était au bord de la ruine et en le dépeçant ainsi, les oligarques menaçaient de tuer la poule aux œufs d'or. Eux s'en fichaient, mais pas les millions de bureaucrates petits et grands qui jusque-là avaient été les privilégiés du régime et qui étaient sur le point de tout perdre. Alors avec l'arrivée au pouvoir de Poutine, la haute bureaucratie en Russie a repris la main sur ce qui restait de son État. Elle a mis au pas les oligarques sans difficulté, car la bourgeoisie libérale russe, sur laquelle ils auraient pu s'appuyer, n'avait pas une base sociale suffisante pour s'y opposer. Dans les années 2000, la Russie est devenue l'un des principaux fournisseurs d'hydrocarbures et de nombreuses autres matières premières. Elle a ouvert quelques secteurs de son économie aux capitaux étrangers, mais de façon limitée. Elle a tenu aussi à garder son influence sur son étranger proche, où elle se retrouvait en concurrence avec les pays impérialistes qui gagnaient du terrain. En fin de compte, l'État russe, à la tête d'un pays relativement développé que l'URSS lui a laissé en héritage, s'est opposé à la fois au démantèlement de son économie par le capitalisme international et à la progression des pays de l'OTAN vers ses frontières. Après avoir cherché en vain à être accepté parmi les grandes puissances en tant que partenaire, un mot que Poutine affectionnait au début des années 2000, la Russie s'est repliée sur ses positions. C'est cette confrontation qui a fini par déboucher sur la guerre en Ukraine en 2014, puis en 2022. Depuis 2 ans, les conséquences de la guerre en Ukraine ont affecté la Russie, mais aussi l'Europe elle-même. Les seuls qui avaient tout à y gagner jusqu'à un certain point étaient les États-Unis. C'est d'ailleurs pourquoi l'impérialisme américain n'a pas hésité à soutenir le gouvernement de Zelensky. La vieille rivalité entre les capitalistes américains et ceux du vieux continent n'a jamais disparu. Face aux géants américains, chinois et russes, l'Union européenne voudrait bien parler d'une seule voix. Elle y parvient parfois, mais reste morcelée et soumise au soubresaut de la crise et des relations internationales. Elle se retrouve fragilisée. On l'a vu avec la crise soudaine provoquée par la question du blé ukrainien. Au début de la guerre, la Commission européenne a levé les droits de douane sur l'importation des céréales ukrainiennes qui, du coup, ont été vendues en dessous des prix du marché européen. Face à cette concurrence jugée déloyale, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie ont interdit les produits ukrainiens sur leur territoire. Et lorsque Bruxelles a voulu lever ces restrictions, les chauffeurs de camions polonais ont bloqué leurs frontières avec l'Ukraine. À présent, et vu les agriculteurs français protestent à leur tour contre la levée des droits de douane sur le blé, les œufs, le sucre et les poulets importés d'Ukraine. Alors remarquons au passage que c'est vraiment une concurrence absurde. L'humanité a les moyens de nourrir tout le monde. C'est le capitaliste qui empêche qu'on planifie la production pour mettre fin à la malnutrition et aux famines. Les producteurs des différents pays, les capitalistes eux-mêmes sont incapables de savoir à l'avance quelles marchandises ils vendront, car le marché en décide après coup. Alors, d'un côté, ils ne produisent pas assez par rapport aux besoins, et de l'autre, ils produisent trop par rapport au marché solvable où ils sont tous en concurrence. Autre illustration des difficultés de l'Europe, fin 2023, malgré les importations de gaz américaines ou indiennes déjà évoquées, eh bien, les Européens ne pouvaient toujours pas se passer complètement du gaz russe, ni d'autres marchandises que la Russie leur fournissait, surtout en Europe de l'Est. Faute de substituts, les sanctions européennes ont pris soin d'épargner quelques produits dont les capitalistes ne peuvent pas se passer, Par exemple, le titane fabriqué en Russie, matériau indispensable aux moteurs et aux trains d'atterrissage des avions. D'ores et déjà, l'économie européenne décroche face à celle des États-Unis. Son PIB a commencé à diminuer et l'Allemagne est entrée en récession. L'Europe de l'Est, qui est un peu l'arrière-pays de l'Allemagne, en subira les conséquences. Et peut-être même toute la zone euro, car comme le dit une sorte de dicton devenu à la mode, si l'Allemagne s'enrhume, c'est toute l'Europe qui tousse. Le mois dernier, une étude constatait que l'Asie et les États-Unis concentrent 82% des nouveaux projets d'investissements industriels, tandis que l'Europe en attire moins de 10%. Les entreprises européennes elles-mêmes investissent de plus en plus en dehors de l'Europe. L'Allemagne est aussi particulièrement impactée par la dégradation des relations avec la Chine, qui était devenue l'un de ses principaux partenaires commerciaux. Elle est par exemple entièrement dépendante d'elle pour son approvisionnement en terres rares. Et dans l'autre sens, ces grandes entreprises réalisent sur le marché chinois environ 20% de leurs ventes. Elles ont besoin de ce marché. Alors, confrontées à cette concurrence exacerbée, depuis déjà une vingtaine d'années et à un rythme qui ne cesse de s'accélérer, tous les États prennent des mesures protectionnistes destinées à aider leurs capitalistes. L'impérialisme américain, champion du libre-échange quand il s'agit d'obtenir l'ouverture des marchés à ses capitaux, est devenu aussi champion en matière de protectionnisme. D'après le FMI, les barrières commerciales introduites par les États-Unis ont triplé depuis 2019. Après les taxes sur l'acier et les télécoms chinois, les produits de Huawei ont carrément été interdits sur le sol américain en 2022. Puis les États-Unis ont décidé de ne plus exporter leurs technologies de pointe dans les semi-conducteurs, l'informatique quantique et l'intelligence artificielle. De son côté, la Chine pratique aussi des restrictions sur ses exportations de produits stratégiques et le mois dernier, elle a interdit l'exportation de ces technologies liées à l'extraction et au traitement des terres rares. Cependant, la principale forme de protectionnisme mise en œuvre par les États-Unis et les autres, mais là en l'occurrence les États-Unis, c'est l'énorme plan de subvention pour l'économie américaine lancé en août 2022, l'Inflation Reduction Act. Ce projet prévoit un budget de 369 milliards de dollars sur 10 ans pour financer, sous forme de crédit d'impôt, les entreprises qui utilisent des technologies dites vertes. Parallèlement, un autre plan a été lancé pour subventionner la recherche avec 280 milliards de dollars. Toutes ces subventions sont accessibles aussi aux entreprises étrangères. Les résultats n'ont pas tardé. En décembre 2022, Biden s'exclamait « L'industrie manufacturière est de retour », salant la construction sur le sol américain de deux usines de semi-conducteurs par le taïwanais TSMC, bientôt suivies par le japonais Honda, le coréen LG. L'État chinois aussi finance ses trusts, notamment ses sociétés de télécom, d'énergie et ses fabricants de voitures, ce qui lui vaut des protestations aussi indignées qu'hypocrites de la part de l'Union européenne pour concurrence déloyale. L'Union européenne, elle, après de longues tractations entre ses États membres, a fini par lancer son propre plan avec un budget de 340 milliards d'euros. Elle a aussi mis en place un plan pour la recherche de 45 milliards, 6 fois moins que son modèle américain. Enfin, pour tenter de garder ses constructeurs automobiles en Europe, Bruxelles va faire construire la plus grande usine européenne de batteries électriques en Hongrie, sauf qu'elle n'est pas capable de le faire seule et elle a dû faire appel pour l'aider à un des géants chinois du secteur, CATL. La concurrence capitaliste se heurte décidément à chaque pas aux réalités de l'économie mondialisée. Au sein même de l'Union, c'est le sauve qui peut. Chaque État joue son propre jeu indépendamment des autres et parfois contre les autres pour attirer les constructeurs dans son pays à coup de subventions. Le gouvernement allemand a offert 10 milliards d'euros à Intel pour construire des usines de semi-conducteurs en Allemagne. La France débourse 1,5 milliard pour que le Taïwanais Prologium installe sa première usine européenne de batterie à Dunkerque et presque 3 milliards pour l'ouverture d'une usine de semi-conducteurs à Kroll dans la banlieue de Grenoble. Et tandis que des projets miniers sont à l'étude en Suède, au Portugal et en Allemagne, l'État français compte financer le développement de la production des ressources minières à Wallis et Futuna, malgré l'opposition de la population locale. Enfin, Concernant la question sensible de l'armement, chaque État européen finance en priorité son propre budget militaire. Au lendemain de l'invasion russe en Ukraine, au grand dam de Dassault, l'Allemagne a choisi de s'équiper en F-35 américains plutôt qu'en Rafale. Dans son ensemble, l'Union européenne achète 63% de son équipement militaire aux États-Unis. En fait, au-delà de la concurrence, toutes ces mesures montrent finalement une interdépendance de plus en plus grande du grand capital et des États bourgeois à son service. C'est une tendance générale de l'impérialisme depuis le début, mais qui est encore renforcée par la crise et les menaces de guerre. Le parasitisme du grand capital passe de plus en plus par le fait que le privé absorbe une part croissante des moyens étatiques. Les États financent le secteur privé en investissant à sa place, les capitaux publics et les capitaux privés se mélangent, tandis que l'appropriation des profits, elle, reste privée. Dans un passé récent, les partis communistes staliniens avaient coutume de parler de béquilles étatiques à propos de cette aide des États à la grande bourgeoisie, une expression que nous avons reprise bien des fois. Force est de constater qu'aujourd'hui, la relation entre les États et les capitalistes est devenue si intime qu'on se rapprocherait davantage de la réalité en parlant d'exosquelette. L'État bourgeois, tout en finançant les capitalistes, n'a pourtant nulle intention de leur dicter leur conduite. Et ces derniers ne se sentent pas tenus par la générosité publique. Ils touchent les subventions tout en investissant comme cela leur chante. Ils ne veulent d'ailleurs pas faire les frais de la fragmentation de l'économie et jouent sur tous les tableaux à la fois. Prenons le cas du secteur automobile, où la concurrence est forte et où les trusts reçoivent énormément de subventions. Aux États-Unis, Ford, tout en touchant des subventions américaines, s'est associé au géant chinois de batteries électriques CATL pour ouvrir une usine dans le Michigan. Stellantis a pris des participations dans une entreprise chinoise, Leapmotor. Son PDG, Tavares, pressent que les constructeurs chinois vont tenter de gagner des parts de marché en Europe puisque le marché américain leur est de plus en plus fermé. Or, il s'inquiète d'un écart de compétitivité de 20 à 30% favorable à la Chine, selon lui. Alors il dit « L'offensive chinoise est visible partout. Grâce à cet accord, nous pourrons en bénéficier plutôt que d'en être victimes. » Mais il ajoute que si l'Union européenne dresse des barrières douanières devant les voitures chinoises, Stellantis pourra assembler les véhicules de Leapmotor dans ses propres usines. Renault a fait le même type d'alliance pour construire une usine de batteries électriques à Douai et une autre qui fabriqua des moteurs thermiques. Il va même produire le véhicule de l'un de ses associés chinois, Geely, dans ses usines de Busan en Corée pour viser le marché américain cette fois. En effet, fabriquée en Chine, la voiture de Geely paierait des taxes américaines plein pot, tandis qu'il y a un accord de libre-échange entre les États-Unis et la Corée du Sud où Renault a ses usines. Alors, les capitalistes se disent toujours contre trop d'États, mais ils bénéficient des aides de l'État qui sont taillées pour eux. Ils sont en concurrence avec les capitalistes chinois, mais s'associent quand même à eux. Oh, cet opportunisme n'est pas nouveau. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, malgré l'intervention américaine, Ford avait bien continué à faire des affaires avec l'Allemagne nazie pendant toute la durée du conflit. On fait ce qu'on veut et on veut tout à la fois. C'est comme cela que raisonnent les capitalistes. D'ailleurs, comme ils savent que la situation est instable et qu'il y a de plus en plus de risques géopolitiques, comme l'a dit Elon Musk aux investisseurs de Tesla, le mieux que nous puissions faire est d'avoir des usines dans de nombreuses régions du monde. Alors, au regard de tout cela, on mesure mieux l'hypocrisie du discours selon lequel la Russie et la Chine menaceraient la paix mondiale, quand ce n'est pas la Corée du Nord, l'Iran, la Syrie ou les organisations terroristes. La guerre économique qui fait rage est universelle et les rapports de force en permanence remis en cause. Le monde s'enfonce dans la crise et l'instabilité. Bien des États dans les pays pauvres ne sont même plus capables de contrôler les territoires qu'ils sont censés gouverner. Les guerres locales se multiplient et menacent de s'étendre de proche en proche. Et surtout, les rivalités impérialistes et entre États prennent un caractère de plus en plus aigu. Davantage qu'une menace, la domination de la bourgeoisie impérialiste fait de la guerre une certitude. La célèbre phrase de Jaurès reste profondément juste. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Au début du XXe siècle, un autre socialiste, Kautsky, l'avait souligné aussi par ces quelques mots. Le commerce a besoin de la paix, mais la concurrence crée la guerre. Alors ça donne parfois à la politique de ceux qui dirigent la société un aspect schizophrénique. D'un côté, un secrétaire d'État américain au commerce, en visite à Pékin, déclare que la Chine et les États-Unis ont absolument besoin de relations apaisées. Tandis que dans une interview, un chef d'état-major de l'armée américaine affirme qu'un conflit majeur opposera les deux pays d'ici 2025. Personne ne peut encore dire quels seront les contours des prochaines guerres, ni quels camps s'affronteront exactement. Certains pays ne savent pas à quel sens vouer d'ailleurs. Par exemple, l'Inde fait partie des BRICS, mais elle est de plus en plus en concurrence avec la Chine. Elle fait de l'œil à Apple pour attirer ses usines et a déployé des navires de guerre en mer Rouge dans le cadre de la coalition avec les États-Unis. Mais d'un autre côté, elle se démarque des États-Unis en appelant à construire un monde multipolaire. En Amérique du Sud, un petit pays de moins d'un million d'habitants, le Guyana, a récemment fait parler de lui. En 2015, on y a découvert d'énormes réserves de pétrole. ExxonMobil et Chevron ont aussitôt mis la main sur les trois quarts du gisement, mais le Venezuela voisin, lui-même gros producteur de pétrole, revendique le rattachement de la région où ce gisement se trouve. Il a massé des troupes à la frontière. Alors il ne fait certes pas le poids face aux Américains, mais son président Maduro est coincé dans une logique nationaliste qui le pousse à gonfler les muscles et à prendre le risque d'un dérapage. De leur côté, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont envoyé des avions de chasse et des navires de guerre. Officiellement, ce n'est certes pas pour protéger les intérêts des trusts, mais au nom d'un soutien inébranlable à la souveraineté du Guyana. La poudre s'accumule et les points les plus chauds s'enflamment les uns après les autres. Les événements s'accélèrent parfois brutalement, comme en Ukraine et au Moyen-Orient. Qui peut dire si les tensions autour de Taïwan dégénéreront et quand ? Plusieurs incidents ont déjà éclaté entre la Chine et le Japon, les Philippines et le Vietnam. En tout cas, les chefs d'état-major et les responsables politiques de tous les pays impérialistes affirment qu'il faut se préparer à des conflits de haute intensité. Après avoir déclaré « il faut une accélération de l'économie de guerre européenne », Macron parle dans tous ses discours du réarmement de la France. Il veut mettre un uniforme aux enfants, leur enseigner la Marseillaise et les prétendues valeurs de la République. Les budgets militaires des États impérialistes augmentent et la propagande en faveur de l'unité nationale derrière la bourgeoisie aussi. Alors les travailleurs, eux, se retrouvent politiquement désarmés face à cette évolution, car les partis qui s'adressent à eux ne les y préparent pas, au contraire. En France et dans les autres pays impérialistes, la montée de l'extrême droite et surtout son influence au sein même d'une fraction de la classe ouvrière sont inquiétants. Car Le Pen et ses émules ont fait de la lutte contre la mondialisation, pour le protectionnisme, contre les immigrés, leur créneau électoral. Mais plus grave encore, il existe un discours souverainiste des partis de gauche qui reprend les mêmes arguments. Ils ont transformé nos frontières en passoires, s'est exclamé Roussel à la fête de l'humanité. Leur grande trouille, c'est le protectionnisme, prétend Ruffin, qui affirme « il faut des quotas d'importation, il faut des taxes aux frontières, il faut des barrières douanières ». L'argument, ou plutôt la tromperie, c'est de prétendre qu'en instaurant de telles mesures, on relocaliserait et on créerait des emplois en France. D'après Ruffin, on pourrait contraindre les capitalistes, mais en réalité, ils sont libres d'investir où ils le veulent. Et l'État bourgeois, dans cette société, n'est là, à la rigueur, que pour les inciter en leur offrant des aides. Mélenchon dit la même chose en y ajoutant sa touche personnelle. Lui se dit partisan d'un protectionnisme écologique. Mais c'est exactement l'argument de tous les gouvernements. C'est au nom de la transition écologique qu'ils gavent les groupes capitalistes de subventions que Mélenchon évite de dénoncer, tandis qu'il brode sans fin des discours sur le peuple souverain. Et quitte à raconter n'importe quoi, il se dit aussi pour un protectionnisme solidaire qui serait négocié entre pays concurrents. Le protectionnisme est un miroir aux alouettes pour les travailleurs. Il ne leur apportera rien de bon. Si des usines sont relocalisées, on leur demandera de faire des sacrifices sous prétexte d'aider les entreprises à supporter les coûts de production plus élevés en France. Ce sera le chantage à l'emploi. Et les coûts de production serviront aussi à justifier l'augmentation du prix des marchandises. Le protectionnisme entraîne toujours l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat des classes populaires, car il n'est pas question de toucher au profit. Alors un parti qui veut défendre les intérêts des travailleurs se doit d'expliquer que les délocalisations et le protectionnisme ne sont pas deux politiques opposées, mais complémentaires, que le grand capital adopte en fonction des circonstances. Aujourd'hui, le prix à payer pour le protectionnisme sera un abaissement encore plus catastrophique du niveau de vie de la classe ouvrière et des régimes de plus en plus autoritaires pour l'imposer. La gauche réformiste et les altermondialistes ont pris depuis longtemps l'habitude de critiquer le libéralisme plutôt que le capitalisme. Cela revient à dédouaner celui-ci en laissant entendre que si les États intervenaient davantage, il pourrait y avoir un capitalisme équilibré et régulé. On voit pourtant bien de nos jours que davantage d'États dans le cadre de l'impérialisme ne veut absolument pas dire davantage de mesures pour les travailleurs, au contraire. Et il est pour le moins paradoxal de réclamer plus d'États alors que les États n'ont jamais été aussi interventionnistes, mais au service de la grande bourgeoisie. Il est inutile d'attendre du gouvernement qu'il mette les moyens pour la santé, l'école, les services publics utiles à la population. Il n'y en aura que pour la bourgeoisie et pour l'armée. La gauche réformiste contribue aussi à diffuser le poison nationaliste qui divise la classe ouvrière. Dans les années 1970, le Parti communiste scandait déjà « Produisons français ». Son candidat aux prochaines élections européennes, Desfontaines, a écrit récemment à propos du possible élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. Il aggravera le dumping social qui a déjà amené 1/5 des Européens sous le seuil de pauvreté. Stop à la fuite de notre industrie et à la ruine de nos agriculteurs. Eh bien, cela revient à légitimer la concurrence que les capitalistes instaurent entre les travailleurs de différentes nationalités et à les dresser les uns contre les autres. Le Parti communiste pourrait aussi bien dire « travailleurs de tous les pays, restez pauvres ». Eh bien, c'est le contraire qu'il faut défendre. Les travailleurs n'ont pas de patrie, ils doivent s'unir au-delà des frontières et pas derrière leur bourgeoisie. Face aux menaces de guerre aussi, les réformistes sèment des illusions. Le rejet pacifiste de la guerre de la part des travailleurs est souvent la première manifestation de révolte contre la barbarie et contre les gouvernants qui envoient des soldats au front. Mais les discours pacifistes, qui seront de plus en plus nombreux au fur et à mesure que la guerre s'étendra, sont une façon de surfer sur les inquiétudes et les sentiments de la population pour la mener sur une voie de garage. Que réclament les pacifistes ? Ils en appellent au gouvernement des États impérialistes et aux organismes internationaux qui dépendent d'eux. Au mieux, ils prétendent faire pression sur eux pour mettre fin au conflit. Mais cela revient à demander aux pyromanes d'éteindre l'incendie qu'il a allumé, tout en le laissant libre de recommencer. Au début de la guerre en Ukraine, Fabien Roussel appelait à organiser une conférence pan-européenne de paix et de sécurité collective. Le mois dernier, à propos de Gaza, Mélenchon affirmait dans un meeting « S'il n'y avait pas eu le veto américain, nous aurions le cessez-le-feu, parce que l'ONU dispose dans ses statuts d'un droit d'intervention pour faire respecter le droit international. Il y a même un commandement militaire prévu par l'ONU, qui n'est jamais sollicité. En général, c'est l'OTAN qui s'en charge, comme ça a été le cas pour l'Irak, etc. » Autrement dit, Mélenchon sait très bien qui décide, les États-Unis et l'OTAN, mais il veut nous faire croire que la diplomatie serait capable d'arrêter la guerre en Palestine. L'ONU, mise en place par les États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, n'est pourtant, comme le disait Lénine à propos de son ancêtre, la Société des Nations, qu'une caverne de brigands. Oh, elle dénonce les malheurs du monde. Elle documente tout, l'exploitation, la misère, la faim, le manque d'éducation, les dictatures, les crimes de guerre. Elle se charge de gérer certains camps de réfugiés et de fournir de l'aide humanitaire. Elle fait des déclarations solennelles et pond des résolutions, parfois même contre les puissances impérialistes quand celles-ci, de façon trop flagrante, utilisent la force pour parvenir à leur fin. Mais dans ce cas, ces résolutions ne sont pas appliquées, comme en Palestine. Alors l'ONU sert surtout à dédouaner le système impérialiste dans son ensemble, en faisant croire qu'il existe une sorte de gouvernement mondial qui fait tout ce qu'il peut pour qu'il y ait la paix. Non seulement les exhortations des Roussel et Mélenchon sont illusoires, mais elles rendent même un fier service aux fauteurs de guerre. En effet, après les mobilisations et les manifestations en faveur de la paix, on verra les politiciens réformistes se retourner au moment fatidique pour dire aux travailleurs « Vous voyez, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait, mais puisqu'on n'a plus le choix, il faut y aller. » Le pacifisme, par son impuissance, conduit les travailleurs au fatalisme. De ce point de vue, comme disait Trotsky, il se transforme en supplétif de l'impérialisme. Alors, les travailleurs conscients ne sont pas pacifistes, mais révolutionnaires. Il ne faut pas contribuer à faire croire qu'on pourrait arrêter les guerres impérialistes sans supprimer leur cause, sans changer la société. Seule une révolution renversant la bourgeoisie pourrait stopper l'évolution vers la guerre. Et si on n'est pas capable de la stopper, la seule issue à cette barbarie est encore la révolution. À la guerre impérialiste entre les peuples, la classe ouvrière doit opposer la guerre de classe. Il n'y a pas d'autre issue. Et pour être certain de ne pas se lier à l'État national en temps de guerre, de ne pas se laisser embarquer derrière la bourgeoisie, il faut déjà, comme disait Trotsky, que les partis ouvriers déclarent partout une guerre inexpiable à l'État national en temps de paix. Pour les travailleurs, l'espoir ne peut pas résider dans des chimères de relocalisation, de frontières qui ne protègent de rien ou d'union nationale derrière leur bourgeoisie. Il ne peut naître que de la perspective de renverser l'impérialisme, travailleurs de tous les pays unis dans un même combat pour libérer l'humanité de l'esclavage salarié et de la guerre. Alors malgré le chaos qui grandit, eh bien, la classe ouvrière a toutes les raisons de garder espoir. Car le capitalisme a continué, quels que soient les soubresauts de son économie, à développer des moyens qui vont dans le sens d'un rapprochement de tous les pays et de tous les travailleurs. Il y a un siècle, le monde entier était encore comme un patchwork, composé de morceaux de tissu de couleur, cousus ensemble mais distincts. Mais depuis, les fils ont été entremêlés et ils le sont de plus en plus. De nos jours, avec Internet et les téléphones portables, pas un seul travailleur, s'il le veut, n'ignore où est Gaza, ni ce qui s'y passe. À travers les réseaux sociaux, l'habitude se prend de communiquer avec davantage de gens, où qu'ils se trouvent. Et grâce à l'intelligence artificielle, on pourra bientôt discuter en direct avec quelqu'un qui parle une autre langue. Bien sûr, on peut discuter du contenu de ce qui circule sur Internet, mais il reflète ce qu'est la société d'aujourd'hui et pourrait devenir bien plus riche à l'avenir. Avec les moyens de communication actuels, rien que le recensement démocratique des besoins réels des travailleurs pourrait être effectué bien plus facilement qu'il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans. Or, un tel recensement est à la base de la planification de l'économie qui permettrait de parvenir au communisme. Trotsky écrivait déjà, en 1924, une organisation économique et sociale qui s'appuierait uniquement sur la technique des grandes entreprises, qui serait construite sur le modèle des trusts et des syndicats, mais sur les bases de la solidarité, qui serait étendue à une nation, à un État, puis au monde entier, offrirait des avantages matériels énormes. Un siècle plus tard, avec ses connaissances scientifiques, ses possibilités techniques et ses capacités de production, l'humanité a les moyens de répondre à tous ses besoins essentiels et d'entreprendre avec confiance les tâches qui se posent et se poseront à elle à l'avenir. Et le capitalisme a aussi développé des outils pour mettre en œuvre ces moyens. Avec les multinationales, les banques et le système financier international, les bases objectives de la révolution socialiste existent. Les grandes entreprises capitalistes ont déjà rationalisé la production maximum à l'intérieur des usines et des chaînes logistiques, mais avec pour seul critère les dividendes des actionnaires. Entre les mains des travailleurs, ces outils permettraient de franchir rapidement un pas immense en avant. Avoir autant de moyens et au bout du compte n'avoir aucune maîtrise sur l'économie et sur la marche du monde, c'est réellement absurde. Et c'est cela qui condamne le capitalisme, quel que soit le temps qu'il faudra au prolétariat pour le renverser. Dans le texte déjà cité, Trotsky disait aussi « Les forces de production sont depuis longtemps mûres pour le socialisme. Le prolétariat, depuis longtemps, tout au moins dans les pays capitalistes les plus importants, joue un rôle économique décisif. C'est de lui que dépend tout le mécanisme de la production et par suite de la société. Ce qui fait défaut, c'est le dernier facteur subjectif, la conscience retarde sur la vie. » Eh bien, de nouveau aujourd'hui, oui, ce qui manque au prolétariat, c'est la conscience de ses intérêts et la volonté de mener la lutte de classe pour renverser la bourgeoisie. Retrouver cette conscience qu'il a déjà eue dans le passé passera nécessairement par la reconstruction de partis révolutionnaires et d'une internationale communiste qui se battent ouvertement sur ce terrain. Le recul du mouvement actuel est tel que les travailleurs ont pris du retard sur le cours des événements. Mais les choses pourraient changer vite. Si en 1924, le prolétariat jouait un rôle économique décisif seulement dans les pays capitalistes les plus importants, le capitalisme a beaucoup fait avancer les choses de ce point de vue-là aussi. Il y a de plus en plus de prolétaires dans le monde. Voyez comment un journaliste décrit ce qu'il a vu dans le nord du Vietnam, où les multinationales sont en train de s'implanter et où l'industrialisation est très rapide. Je le cite. On voit un afflux de jeunes paysans venus des campagnes qui arrivent par dizaines de milliers dans les régions industrielles pour chercher un emploi à l'usine. Ils font parfois des centaines de kilomètres sur leurs petits scooters pour venir chercher du travail. Chaque matin, à l'aube, on voit ces files de jeunes ouvriers se former devant les centres de recrutement qui embauchent à l'appel par dizaines de milliers. Et c'est un peu pareil du côté des diplômés. Dans la principale université d'Hanoï, presque tous les jeunes ingénieurs en fin d'études sont immédiatement happés par les usines de haute technologie qui viennent leur offrir des emplois des mois avant qu'ils ne quittent l'université. On sent que ces entreprises font main basse sur la moindre main-d'œuvre disponible dans le pays. Eh bien, l'espoir, il est dans ce prolétariat qui continue de grandir partout et qui collectivement fait tourner toute la société, y compris pour les travailleurs de France et des autres pays impérialistes. L'espoir, il est contenu dans la dernière phrase bien connue du manifeste communiste « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Il ne s'agissait pas d'un simple appel à une solidarité de cœur entre les travailleurs, mais bien d'un programme révolutionnaire. Le paragraphe du manifeste qui précède cette phrase disait en effet « Les communistes ne s'abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs projets. Ils proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent être atteints que par le renversement violent de tout l'ordre social passé, que les classes dirigeantes tremblent à l'idée d'une révolution communiste. Les prolétaires n'y ont rien à perdre que leur chaîne. Ils ont un monde à y gagner. » Eh bien, c'est cette boussole, cette perspective révolutionnaire et internationaliste qu'il faudra garder dans la période à venir, quelles que soient les difficultés devant nous, car c'est la seule qui offre une alternative à l'impérialisme et à sa barbarie.